Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Comment stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo? Nous allons en débattre ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant qu'il y a tout juste un an, l'armée congolaise et les casques bleus de la MONUSCO remportaient une victoire historique, une victoire militaire sur les rebelles du M23. Et après la défaite de ce groupe armé, l'ONU avait annoncé que sa priorité était désormais de vaincre les rebelles hutu-rwandais des FDLR, présents dans l'Est du pays depuis maintenant 20 ans. Mais pour l'instant, on ne voit aucune opération militaire lancée contre eux. Par ailleurs, la rébellion ougandaise des ADF continue de commettre des exactions. D'ailleurs, ces dernières semaines, ce mouvement a multiplié les massacres et les pillages. On compte environ 120 personnes tuées en un mois, et ce, malgré la présence de l'armée congolaise et des casques bleus. À cela s'ajoutent, vous le savez, des dizaines de groupes armés locaux ou venant de l'étranger qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comment mettre définitivement fin à ce cycle de la violence? Comment neutraliser toutes ces rébellions? Quel regard portez-vous sur l'action de l'armée, sur l'action des 20 000 casques bleus déployés sur le terrain? 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez toujours sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Il y a par exemple Gérard qui nous dit: la situation dans l'Est est entretenue par les autorités du pays, car nous avons une armée fragilisée par le gouvernement qui ne lui accorde pas un budget conséquent, un budget qui soit à la hauteur des besoins, nous dit Gérard, donc, pour lancer ce débat. Richard, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes en Grande-Bretagne et vous êtes congolais. Ouais. Évidemment, vous suivez de près l'évolution de la situation dans l'Est de votre pays. Et vous dites, vous, que finalement, le mode opératoire des groupes armés a changé ces derniers mois.
Ouais, tout à fait. En fait, le conflit s'inscrit dans une certaine continuité parce que nous assistons à l'insécurité persistante dans la partie est du pays. Et le mode opératoire, comme vous venez de le dire, a changé. Quand on avait la guerre contre les M23, on avait en face deux armées plus ou moins structurées, engagées dans un combat que je dirais conventionnel, symétrique, où on avait une délimitation géographique assez claire, on savait où se trouvait la ligne de front et les positions des parts et d'autres de cette ligne de front. Mais avec les groupes armés comme le ADF, les FDLR, la situation est complètement différente parce que là, je dirais même qu'il s'agit plus de banditisme que d'une guerre conventionnelle, parce que ces gens sont plus ou moins mêlés dans la population civile et ils n'ont pas une ligne de front assez claire qu'on peut situer géographiquement et ils n'ont pas une hiérarchie. Et en plus de cela, on peut dire qu'on ne sait pas en fait s'ils ont une revendication claire politique ou idéologique pour laquelle ils combattent.
Ouais, concernant les ADF, effectivement, difficile d'y voir très clair dans leurs revendications. Mais par exemple, puisque nous parlons des ADF, donc ces rebelles ougandais, ça fait quand même maintenant 21 ans, 22 ans qu'ils sont dans cette région. Comment expliquez-vous qu'on puisse pas les désarmer, tout simplement?
Voilà, c'est que si les gens pensent qu'on va procéder avec les ADF comme on a procédé avec le M23, déjà là, c'est un faux pas. Parce qu'il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'un groupe structuré où on peut identifier facilement leur position et tout ça. Les gens sont mêlés et dans la population, ils ont des réseaux avec des complicités locales. D'où je pense qu'il y a un travail d'intelligence, un travail d'enquête assez sérieux qui doit se mener sur le terrain pour générer l'information nécessaire qui parviendra à plus ou moins savoir où se trouvent ces gens et quelles capacités ils ont pour faire à la population.
Ouais. Donc, alors pendant que vous parlez, je vous écoute évidemment d'une oreille attentive. En même temps, je regarde les Facebook qui nous arrivent. Y a Gary qui est à Goma et qui nous dit « Cette recrudescence des massacres s'explique par un déficit en renseignement. Je me pose la question de savoir que font les drones envoyés à l'est du pays, que font les experts de l'armée américaine envoyés en Afrique centrale pour traquer les autres rébellions ?» Et il cite notamment le LRA. Richard, ne raccrochez pas. Godefroy, lui, nous appelle du sud Kivu, donc dans l'Est. Bonjour Godefroy.
Allô? Bonjour Juan Gomez, je suis à Uvira, au bord du lac Tanganyika.
D'accord.
Alors, je voudrais franchement féliciter mon ami de Londres. il a vraiment donné tout ce que j'avais à donner. Ce n'est pas une guerre conventionnelle comme celle qui a été menée contre les M23, il a déjà dit cela. Donc il faut changer de stratégie. Les stratégies, c'est les renseignements militaires maintenant. Il faut qu'il y ait un renseignement militaire et même civil, parce que comme il a dit, il y a complicité interne. Les ZS Nalou sont là depuis plus de 20 ans. Ils ont commencé, c'est une minorité en fait, une minorité Nande, on les appelle de l'autre côté, c'est en fait des cousins. Ils sont des Nandes, mais qui sont ougandais.
Oui.
Ils ont été peut-être maltraités.
Mais Godefroy, juste pour aller un peu plus vite donc dans la réflexion, si vous partagez le même point de vue, et surtout la même analyse que Richard, qui est toujours en ligne avec nous. Vous parliez tout à l'heure de connivence. Il y a des connivences entre qui? Entre la population et ces différents groupes rebelles?
Bon, de toute manière, si on parle, on est concentré à Beni, c'est ça l'actualité aujourd'hui. Eh bien, de l'autre côté-là, c'est qu'il y avait cet appui-là de la population, mais aujourd'hui, la population est victime. Il reste maintenant des notables locaux, des grands notables locaux, des politiciens. Il y en a qui sont à l'extérieur, vous savez. Il y en a même qui parlent sur les antennes de votre radio, je ne vais pas les citer. Ces gens-là ne sont pas étrangers à ce qui se passe là-bas. Comment pouvez-vous vous imaginer que ces gens qui s'attaquent aux militaires cette fois-ci n'attaquent pas les militaires, commencent maintenant à tuer les civils. Tout ça, c'est pour attirer de l'attention sur eux. Vous vous souvenez, ils ont même dit qu'on propose de la négociation. Vous ne pensez pas que c'est une manière de tourner à ces gens-là de pouvoir réapparaître sur la scène politique congolaise.
Ouais, donc pour vous, il y a certains individus de la classe politique qui tirent les ficelles derrière notamment la rébellion des ADF. Richard, en Grande-Bretagne, un petit mot de conclusion. C'est vrai que certains auditeurs s'étonnent quand même du nombre de massacres en l'espace de quelques semaines dans les territoires de Beni, donc à l'est du pays. On se souvient que il y a quelques jours, à la fin du mois d'octobre, Joseph Kabila, le président, s'est rendu sur place, il s'est rendu dans la région, il a essayé de rassurer la population, il leur a promis qu'il allait vaincre les rebelles ougandais, mais dès le lendemain du passage du président Kabila, les massacres ont repris. Ça signifie quoi? Que les casques bleus, par exemple, pour ne parler que d'eux, sont spectateurs?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs théories qu'on peut attribuer à cette recrudescence de violence. D'une part, moi, je pense qu'il y a aussi cette volonté de la part des commanditaires de ces attaques de dresser la population contre son armée, dresser la population contre son gouvernement. Donc, pour moi, c'est plus ou moins un coup désespéré destiné justement à saper le moral des troupes, de la population. D'accord. Et créer une confusion.
Merci Richard, bonne journée en Grande-Bretagne. Godefroy, merci vraiment de nous avoir appelé d'Ouvira. 33 9 693 693 70, la page Facebook de l'émission RFI, appel sur l'actualité. Il y a Diallo qui nous dit la MONUSCO, donc les casques bleus, la MONUSCO est beaucoup trop passive. En un mois, nous avons assisté au massacre de 100 personnes, cela doit cesser. Si elle ne veut pas que le peuple exige son départ, la MONUSCO doit déployer ses 20 000 soldats dans les zones à risque. Elle a tout le matériel nécessaire pour anéantir les ADF. Bonjour Bruno.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Kinshasa et vous disiez il y a quelques instants au Standard que la population devait surtout vaincre la peur.
Effectivement Juan, pour mettre fin définitivement à ces massacres qui sévissent présentement à l'est de notre pays, la population de l'Est ne doit pas être manipulée par qui que ce soit. Elle doit vaincre la peur et doit collaborer étroitement avec notre armée ainsi que celle de la MONUSCO en dénonçant toute personne qui pète.
Mais tout à l'heure, je crois que c'était Godefroy disait, mais il y a quand même des connivences malgré tout entre la population et ces groupes armés. Vous y croyez, vous?
En effet, Juan, probablement, il doit y avoir des connivences avec ces terroristes. Mais je pense que la meilleure thérapeutique pour mettre fin définitivement à ces différents massacres, c'est la collaboration entre population, la MONUSCO et l'armée. Parce que notre population doit comprendre que la MONUSCO n'est pas en RDC pour... Donc, en d'autres termes,
Oui, c'est vrai que la MONUSCO a mauvaise image quand même en République démocratique du Congo. On l'a encore vu il y a quelques jours dans l'est du pays, la population manifestée. Il y a eu une violente émeute dans la ville de Beni justement pour protester contre, je reprends les propos des manifestants, l'inefficacité de cette mission des Nations Unies qui est quand même la plus importante mission de maintien de la paix au monde. 20 000 hommes déployés sur le terrain et parmi eux 3 000 soldats d'une force d'intervention rapide. Donc 3000 soldats à même de pouvoir combattre aujourd'hui. Marcel, vous êtes à Kinshasa.
Oui, Juan.
Et vous dites qu'il faut maintenant une nouvelle force d'intervention étrangère. C'est-à-dire qu'il faut tourner la page, il faut en finir avec la MONUSCO et il faut une nouvelle mission de maintien de la paix.
Oui, exactement, c'est ce que j'ai dit. La MONUSCO ne fait peur à personne. Et comme vous le disiez, depuis la fameuse victoire de FARDC sur les M23 avec le commandement de Mamadou Ndala, il y a eu des événements importants qui sont passés et qui ont fondamentalement déstructuré l'armée congolaise. C'est notamment la mort de Mamadou Ndala lui-même et puis la mort du général Bahouma qui vient de partir.
Ouais.
C'est des éléments importants qu'on semble négliger.
C'est vrai, alors ça c'est très important ce que vous dites. Non mais Marcel, c'est très important parce que quand on est auditeur et que on ne suit pas forcément de très près l'actualité en République démocratique du Congo, là vous venez de citer deux militaires, le général Bahouma et le colonel Mamadou Ndala. Effectivement, tous les deux ont été tués, tous les deux sont morts et pourtant ce sont ces deux hommes-là qui ont réussi si vous voulez à remporter le combat face au M23. Ce sont des hommes aujourd'hui considérés comme des héros par les Congolais, mais c'était des fins tacticiens, c'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment comment faire pour prendre le dessus sur les rebelles du M23.
Oui, c'est pourquoi je dis qu'avec la mort de ces deux, l'armée congolaise a été vraiment démobilisée, découragée. Beaucoup d'éléments ne sont pas capables, ou bien n'ont pas la même force comme ils étaient sous le commandement de Nala. Maintenant, la MONUSCO ne fait peur à personne. Les militaires qui composent la MONUSCO à l'est de la République, c'est des militaires pakistanais, indonésiens, qui n'ont pas une certaine carrière professionnelle militaire. C'est pourquoi moi je dis carrément qu'il faut restructurer la MONUSCO, envoyer une armée de type effort, des militaires européens qui ont fait peut-être la guerre en Afghanistan, ou même un détachement de l'OTAN. Ce genre de militaires, ça peut encore créer la panique dans les seins des rebelles et tous ces bandits qui s'arrange à tuer les gens à l'est de la République.
Oui, ça vous l'avez dit déjà trois fois, et c'est surprenant effectivement que la plus importante force de maintien de la paix déployée au monde ne fasse peur à aucun rebelle et à personne, comme vous le dites, Marcel. Je voudrais qu'on donne la parole à Thierry. Il nous appelle de Goma. Il souhaite témoigner sur l'insécurité dans cette ville de l'est de la RDC. Bonjour Thierry.
Bonjour Juan, bonjour, je rappelle que je suis Thierry Finza, j'interviens à partir de Goma.
Très bien, et vous souhaitiez justement apporter notre témoignage, et vous disiez tout à l'heure à Jessica au standard que l'insécurité était quotidienne dans cette ville, c'est monnaie courante avez-vous dit.
Oui Juan, effectivement l'insécurité est monnaie courante dans la ville de Goma.
Alors attendez, excusez-moi, vous êtes sûrement à l'intérieur d'une maison. Allô Thierry? Non, on va couper Thierry parce que Thierry parle comme un robot et on n'a pas le décodeur. Donc Thierry, déplacez-vous, sortez peut-être de la maison si vous ne l'avez pas fait, et on va essayer de vous retrouver dans un instant parce qu'on a envie d'entendre évidemment ceux qui nous écoutent en ce moment même à l'Est et qui vivent au quotidien ces violences. Qui avons-nous au standard? François, bonjour François.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Gabon?
Oui, je suis au Gabon.
Bienvenue, on vous écoute.
Écoutez Juan, tout à l'heure j'ai suivi Marcel qui est en train de proposer la création ou l'envoi d'une nouvelle force afin de remplacer la MONUSCO. Moi j'aimerais dire que c'est aujourd'hui, vous l'avez précisé tout à l'heure, la MONUSCO c'est près de 20 000 hommes, près de 20 000 hommes. Et l'une des forces d'intervention les plus importantes dans le monde actuellement. Je pense que le problème qui se pose actuellement, c'est un problème de mandat de la MONUSCO. Il faut que l'on puisse revoir le mandat de la MONUSCO. Parce que ça fait plusieurs années aujourd'hui que cette situation est en train de durer. Après avoir revu le mandat de la MONUSCO, je préconiserais que les différents gouvernements impliqués dans cette situation, je cite le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, que tous ces gouvernements puissent se retrouver avec la MONUSCO afin de trouver une solution.
Oui, mais ça, parce que François, vous savez, mais oui, définitive, tout le monde l'espère, mais vous savez bien qu'il y a déjà eu de nombreuses rencontres. Vous avez cité trois pays, mais il y a même eu des sommets réunissant tous les pays des Grands Lacs où tout le monde signait un accord en disant on ne va plus s'ingérer dans les affaires du voisin. Et pourtant, on voit ce qui se passe encore aujourd'hui sur le terrain.
Oui, mais Juan, moi je préconise cette solution. Pourquoi ? Parce que on a tous suivi Kabila qui s'est déplacé à l'Est et qui disait que la rébellion est soutenue par l'Ouganda. Mais l'Ouganda, jusqu'à ce jour, continue à nier. Mais alors, s'il s'asseyait aujourd'hui sur la même table et qu'ils prenaient tous la même décision de dire, bon, ok, on va à l'Est, les rebelles sont localisés à tel endroit. Et je pense même que les rebelles dont on est en train de parler, ce n'est pas plus de 1000 hommes, plus de 500 hommes. Donc je pense qu'à un moment donné, lorsqu'ils décideront de se mettre ensemble et d'aller à l'endroit exact où se trouvent ces rebelles, mais je pense que cette rébellion sera finie. Parce qu'on est fatigué, le peuple est fatigué. Voilà pourquoi le peuple n'arrête pas de manifester contre la MONUSCO. Le peuple se retourne contre la MONUSCO pensant que c'est la MONUSCO qui devrait réagir. Mais la MONUSCO n'a peut-être pas ce mandat-là pour aller déloger cette rébellion. La MONUSCO ne doit défendre que la population. La rébellion, c'est pas le problème de la MONUSCO.
Ouais, François, on comprend votre émotion. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci de votre témoignage. On retrouve Thierry qui, lui, est à Goma. J'espère que cette fois-ci, le réseau sera meilleur. Thierry ?
Oui, merci Juan, je suis en ligne.
Vous êtes en ligne.
Je suis déplacé.
Très bien, c'est parfait. Vous souhaitiez donc témoigner de l'insécurité à Goma?
Oui, parce que sur place, je suis à Goma, dans la ville, et je vis maintenant quotidiennement. J'ai souffert de cette vie quotidienne de Goma, de Goma Cassien, juste le départ des éléments du 23. La vie est moyennement stable.
Excusez-moi Thierry, excusez-moi, on me dit de l'autre côté qu'on vous entend bien, mais moi dans mon casque je vous entends très mal, donc je peux pas discuter avec quelqu'un que je ne comprends pas. Je suis désolé pour vous, hein, je n'ai rien contre vous, mais malheureusement, on va essayer de régler ça demain. Vous le savez, c'est la Libre Antenne, c'est le vendredi, on parle de tous les sujets qui vous intéressent, donc on va essayer de vous rappeler vraiment pour que vous puissiez parler. 33 9 693 693 70. Bonjour Blaise.
Bonjour, monsieur Gomez.
Vous êtes à Kinshasa et vous dites que le problème, c'est que les rebelles n'ont pas peur de l'armée congolaise.
Effectivement, monsieur Gomez, le problème de l'Est ou de la République démocratique du Congo, moi je trouve que c'est un problème pas tellement grave. Pas grave dans quel sens? Les rebelles n'ont pas peur de l'armée congolaise et ça, c'est un danger. Si aujourd'hui on doit dire que l'armée congolaise et la MONUSCO doivent traquer le rebelle, oui, ils peuvent le traquer aujourd'hui et demain. Mais cette rébellion ne cessera jamais. Cette rébellion cessera au moment où la République démocratique du Congo aura une armée forte. Et ce rebelle-là auront peur de l'armée. Ils n'ont pas peur de l'armée congolaise.
Oui. Enfin, excusez-moi, il y a tout juste... Blaise, il y a tout juste un an, votre armée, que vous accusez d'être faible, a réussi à prendre le dessus sur le M23, sur ce mouvement rebelle.
Mais après, c'est la même chose. Retour à la case de départ. Donc, ça sera toujours comme ça, ça sera répétitif. C'est-à-dire, vous le chassez aujourd'hui, après demain, ils réapparaissent. Parce qu'ils n'ont pas peur. L'armée congolaise n'est pas encore forte. Ouais. Il nous faut une armée forte. Et une fois nous avons une armée forte, je vous dis, on ne parlera plus des M23, ni des FDLR, ni des... tout ça, pas tout, on n'en parlera pas.
D'accord. Merci, je vous interromps, c'est la fin de l'émission. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, évidemment, de prolonger le débat. Demain, vendredi, Libre Antenne. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour commenter l'actualité de la semaine. Tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70. On attend également vos commentaires et toutes vos questions au standard et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de factures.